prions que tu continues à nous parler, Seigneur. Nous venons à toi avec un cœur humble et pauvre en esprit. Et toujours, ça va? Continue à te révéler à nous dans ta parole, que nous soyons équipés pour la venue de ton royaume. Nous sommes dans le chapitre 8. Ah, Romains 8. La question, c'est qui le titre? C'est qui est le plus grand dans le royaume? C'est qui est le plus grand dans le royaume? Les disciples ont posé cette question au Seigneur. C'est intéressant. Parce qu'il pose cette question dans l'évangile. Après que le Seigneur ait dit, il doit souffrir, mourir, ressusciter. Alors les disciples posent cette question, qui est le plus grand dans le royaume? Ou par exemple, aussi un peu avant, au chapitre 17, verset 22. Il dit hein, qu'il doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, il ressuscitera. Puis ensuite, il dit, et le Seigneur leur montre aussi, attendez, avant que tu poses la question, qui est le plus grand dans le royaume, d'abord, soit expliqué comment tu entres, comment est-ce que tu entres dans ce royaume. Et le Seigneur prend un exemple très étonnant. J'aime vraiment les exemples du Seigneur. Prends un enfant au milieu d'eux. D'abord, tu dois te convertir et devenir comme ce petit enfant. On sait tous comment un enfant est. C'est tout de suite clair. Chacun sait comment est un enfant. Chacun sait combien un enfant est simple et humble. Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, déjà, premièrement, tu dois te convertir et devenir comme ces petits enfants. Cela montre que pour le Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux, il y a un principe qui compte. Le principe dans le monde, c'est combattre pour la première place. Plus tu es élevé, plus tu es fier. Le principe du monde ne correspond pas à ça. Pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois déjà être petit. Petit comme maintenant un petit enfant. Et c'est vraiment bon. Le Seigneur dit, tu dois te convertir. C'est-à-dire changer de sens, de ta manière de te conduire. Comme tu penses, comme tu es, ça ne correspond pas au royaume. Et nous savons tous que malheureusement, dans ce monde, nous sommes tirés dans une autre direction, une direction opposée. Nous sommes éduqués pour devenir fiers. Il y a certaines cultures, par exemple en Asie, où c'est perdre la face. J'ai parlé avec beaucoup de personnes. Comment est-ce aussi j'ai eu des entraînements de travailler de manière multiculturelle. Je dis, les Asiatiques, il ne faut pas les exposer de manière... il ne faut pas les critiquer devant eux. Parce qu'ils perdent la face. Et la Corée du Sud, par exemple, c'est aussi prêché de manière très forte. Qu'il y a déjà, selon leur histoire, parce qu'il y a des accidents d'avion, parce que le copilote, parce qu'il est moins élevé que le pilote, il n'a pas osé dire à temps, de manière claire, au pilote, de l'avertir qu'il avait commis une erreur. Et on voit combien c'est au fond de l'homme, ses positions. Comment est-ce qu'ils doivent être, respecter ses positions, des positions très élevées. Et les disciples, parce qu'ils ont construit, ils ont grandi dans cette mentalité, ils doivent demander, ah ok, qui sera le plus grand? J'ai quitté papa, j'ai quitté maman, j'ai quitté ma maison. Je suis le premier. Et d'autres disent, j'ai payé le plus grand prix, j'étais très riche, j'ai tout laissé pour le Seigneur. Et l'autre dit, c'est le Seigneur me préfère, moi je suis probablement le plus élevé. le Seigneur leur dit, mais ce n'est pas le principe pour le royaume. Vu se catégoriser, cette liste, établir une liste, qui, où est-ce que je suis, je me compare aux autres. De cette manière, tu n'entres pas dans le royaume. Mais tu dois être, devenir comme ces petits enfants, t'humilier. Le Seigneur veut vraiment nous libérer de toute fierté, de tout ce que la culture nous apprend. Nous devons nous en libérer, nous devons venir au Seigneur et nous laisser traiter de cela. C'est vraiment un empêchement pour le royaume. Ce n'est pas une bonne chose pour le royaume, c'est vraiment un empêchement pour entrer dans le royaume. Et je dois vraiment admettre que c'est souvent aussi le cas chez moi. Je remarque, parfois je regarde comment les frères et sœurs sont. Je me dis, lui, il brûle. Avec lui, j'ai volontiers de la communion, ce n'est pas un problème. Ou lui, bon, s'il ne vient pas, ce n'est pas non plus trop grave. Mais c'est exactement la mauvaise attitude. Parce que le Seigneur envoie tout de suite un avertissement derrière. Il dit, si tu ne te deviens pas comme ce petit enfant, si tu t'élèves, tu n'entres pas dans le royaume. Si tu prépares un autre, une pierre d'achoppement, une de ces petites choses, au moindre d'entre eux, il parle même si tu t'es une pierre d'achoppement pour le moindre de ceux-ci. Parce qu'on pense, ouais, mais, de toute façon, c'est pas grave. Dans le monde, c'est comme ça. Dans le monde, on ne prend pas, on ne ferait pas attention aux petits, aux ceux qui sont la moindre des choses. On essaye de changer la loi en Allemagne de manière à ce que les homosexuels aient le droit d'adopter des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ont eu la possibilité d'adopter des enfants. On regarde s'ils ont une bonne relation, s'il y a beaucoup de facteurs qui font qu'en fait ils peuvent adopter ces enfants. Ah ouais, déjà dans une famille normale, et les homosexuels veulent détourner cette loi. Par rapport à la masse d'autres, ils sont peu, ils n'auront aucune chance, mais en fait ils sont en train d'obtenir ce droit. Il n'y en a aucun qui fait attention aux petits. Et ce principe ne doit pas entrer dans le royaume des cieux. Cela ne fonctionne pas dans l'Église. On doit avoir cette attitude que nous devons aussi demander à ceux qui sont faibles. Si tu t'élèves par rapport aux autres, tu peux être une pierre d'achoppement pour les autres. Par ton attitude de fierté, d'où tu t'élèves, tu peux préparer en fait une pierre d'achoppement. Tu peux être une occasion de chute pour d'autres. Mais ça va pas aider l'autre, mais ça va être une occasion de chute. Et cela montre combien c'est important à Sion, combien c'est important pour le royaume de Dieu que nous soyons traités sur ces choses, que personne ne s'élève, et nous-mêmes non plus, bien plus que nous nous humilions, comme le Seigneur lui-même s'est humilié. Le Seigneur lui-même a donné le meilleur exemple, parce qu'il s'est humilié. Il a dit même qu'il était un ver. Est-ce que tu te représentes ça? Le Seigneur parle. Il a créé l'univers. Il est le plus élevé au-dessus de tout. Son trône est au-dessus de tous les trônes. Et il vient. Et pour notre volonté, il se fait comme un ver. C'est vraiment impressionnant. Nous devons vraiment avoir cette image devant nous. Si nous avons cet exemple devant les yeux, nous ne devons pas le perdre de devant les yeux, parce que le monde nous donne un autre exemple. La religion nous donne aussi un tout autre exemple. Mais nous, à Sion, nous devons vraiment apprendre à regarder à l'exemple du Seigneur, à toujours avoir l'exemple du Seigneur devant les yeux. Le Seigneur nous donne même un exemple, des paraboles dans le même chapitre, d'un mouton, d'un brebis perdu. Elle dit que s'il y a un des brebis qui se perd, est-ce qu'il ne va pas laisser les 99 autres pour aller chercher? Et il va en plus se réjouir plus de celle qu'il a trouvée que celle des 99 autres. C'est pas... Donc c'est pas... il veut qu'aucun de ces petits ne se perde. Je ne sais pas où il est, mais... Ouais, c'est ça, le verset 12-13. Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Le Seigneur, chacun compte. Ça montre qu'une telle, un tel cœur, nous devons avoir un tel cœur pour les saints, que chacun d'entre nous, que nous apprécions à ce point, aussi, que c'est une joie de regagner cette brebis. Nous ayons ce cœur affligé les uns pour les autres. Le Seigneur a eu cette attitude et nous devons aussi avoir une telle attitude. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Il montre, le Seigneur nous montre encore un principe dans la parole. Il dit bien plus que chacun porte le fardeau des autres. Si nous ne nous humilions pas, nous n'entrons pas dans le royaume et nous allons préparer, nous serons une occasion de chute pour les autres et nous allons les empêcher. Le Seigneur il nous exhorte à cela, mais si nous apprenons ce principe d'avoir le Seigneur comme exemple, alors nous allons pas être une occasion de chute pour les autres, mais bien sûr nous aurons un cœur de porter aussi leur fardeau. Et si le Seigneur montre dans Galates, c'est souvent mentionné, Galates 5, versets 13 et 14, dans la parole, on voit, c'est souvent parlé de combien c'est important de porter les fardeaux des autres et de prendre soin les uns des autres. Galates 5, 13. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est important vraiment de porter les fardeaux les uns des autres. C'est une condition aussi pour entrer, pour être grand dans le royaume des cieux, de servir aujourd'hui les saints, de se considérer comme petit. On peut aussi lire un verset dans Romains 15, un exemple aussi. Romains 15, versets 1 et 2. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Pas chercher ce qui nous plaît. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et le Seigneur montre aussi dans Matthieu 23, il exhorte à nouveau. Il nous avertit de ne pas nous élever. C'est vraiment un principe qui est très en vogue dans le monde et dans la religion de s'élever. Mais c'est contraire au principe du Seigneur. Mais aussi, on peut aussi le voir pratiquement à Sion. Si nous avons appris cette leçon ou pas, il y a une expression pratique. Si nous continuons à lire dans Matthieu 18, ça continue avec un frère qui a péché, au verset 15. Dans ces choses pratiques, on peut voir. Ça s'extériorise si j'ai traité la fierté en moi, si je me suis humilié devant le Seigneur et que j'ai un cœur pour les saints. On voit au verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration des deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Là, le Seigneur montre si vraiment nous avons un cœur pour les frères et sœurs. Quand il y en a un qui pêche, alors nous n'aurons pas ce désir de faire notre propre justice, de faire en sorte que cette personne s'excuse, mais j'ai envers lui avec cette attitude de vouloir le gagner. C'est un principe complètement différent que dans le monde. Dans le monde, on t'apporte le fait de dire l'autre, je vais me sentir bien parce que je suis juste, donc l'autre doit en fait s'excuser. Et je serais bien que dès le moment où il se sera excusé. Mais là, le Seigneur te dit, va vers lui pour chercher à gagner le frère. Nous avons ce désir que ce frère soit à nouveau restauré, que la paix soit de nouveau restaurée avec cette personne. Il y a un principe important ici, c'est qu'il y a une logique. Tu vas vers, tu le reprends, puis sinon tu prends des témoins avec toi et ensuite tu le dis à l'église. Un frère m'a dit, il y a 50% des problèmes dans l'église qui surviennent parce que ce principe n'est pas respecté. Parce qu'on ne va pas d'abord vers le frère, mais parce que d'abord, il faut que j'aille parler à Clémence là-dessus. Alors lui, je vais encore vers un autre frère. Ensuite, il ajoute encore petit quelque chose. Hein, je rends la chose un peu plus grave parce que je veux qu'ils fassent attention à moi. Et ça montre que ce principe, en fait, génère beaucoup de difficultés. Mais le Seigneur ici met le doigt sur un principe très important. D'abord, tu vas vers lui. Si tu veux vraiment le gagner pour signer, d'abord, tu vas vers lui. Alors tu as aussi le désir aussi d'éclairer cette chose, de clarifier cette chose avec lui. Ça doit être une réaction tout à fait normale d'aller d'abord vers ce frère et d'éclaircir la chose. Et d'abord, et s'il ne t'entend pas, alors il y a une deuxième étape. Mais c'est toujours dans le but de le gagner. Alors là, j'appelle encore deux, trois témoins. Là. C'est-à-dire que je n'abandonne pas ce frère. J'ai toujours cette attitude. Je veux vraiment le gagner à nouveau pour le Seigneur. Ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment constamment exercer. Je dois vraiment dire que ça me vient toujours aussi que je commence à parler de quelqu'un avec quelqu'un d'autre et le Seigneur m'exhorte. Il dit, pourquoi est-ce que tu dis cela en fait? Quel est ton motif? Quelle est ton intention? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu veux gagner le Seigneur de cette manière? Non, certainement pas. Souvent, il dit, Seigneur, je lui dis au Seigneur, je veux apprendre cela. J'ai besoin de l'amour pour ce frère dans mon cœur. Et là, j'entre dans la prière et avec un esprit de douceur. C'est important même, dès le début, de prier pour quelqu'un. Nous savons souvent combien c'est difficile pour nous de pardonner. C'est pour ça que nous devons déjà prier pour nous. Dire, Seigneur, tu dois traiter mon cœur. Tu dois sauver mon cœur de cette fierté. Parce que quelle est l'origine du fait que je ne pardonne pas? C'est ma fierté. Le Seigneur a exposé cette situation aussi. En moi, il y a encore de la fierté. J'ai dû dire au Seigneur, Seigneur, sauve-moi de cette fierté. Et donne-moi cet amour pour ce frère. Et ensuite, je vis aussi avec un esprit de douceur. Ça me suis souvent apparu clairement. Si tu parles avec quelqu'un de manière plus élevée, l'homme le remarque. Mais si tu t'humilies, tu peux vraiment atteindre la personne. Le Seigneur l'a aussi bien pratiqué quand il allait à Jéricho. C'était une ville très pécheresse. Il y avait ce Samaritain. Cet homme qui est sur le chemin de Jéricho. L'homme le plus pécheur à Jéricho, c'est Zachée. Et le Seigneur, quand il le rencontre, le Seigneur est en bas. Zachée sur l'arbre, il est en haut. Le Seigneur leur regard, lève les yeux vers lui. Il regarde cet homme depuis le bas parce qu'il veut le gagner. Il dit, descends de cet arbre, je vais souper avec toi ce soir. Il va vers l'homme le moins considéré de cette ville. Pourquoi ? Parce qu'il veut le gagner. Et cette attitude, ce principe, nous devons l'apprendre du Seigneur. Et ensuite, le Seigneur amène aussi un autre aspect. C'était ce désir de gagner le Seigneur. Et l'autre chose, c'est aussi que je dois être prêt à pardonner. Si je ne suis pas prêt à pardonner, alors ça a aussi une conséquence grave. Ça me coûte le royaume. Le Seigneur apporte un exemple très clair. Il dit Pierre demande combien de fois je dois pardonner. Il dit, sera-ce jusqu'à 7 fois? Verset 22, Jésus dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est déjà pas mal, c'est beaucoup. Et là, le Seigneur donne un royaume pour donner une image de ça. Il commence de nouveau, le royaume des cieux est semblable à un roi. Il l'amène vraiment en relation avec le royaume des cieux. C'est-à-dire que le fait de pardonner a à voir avec le royaume des cieux. On ne peut pas le séparer. C'est pas, on a la conférence sur le royaume. Maintenant, là, il en va de mes choses personnelles. Non, non, il en va là, précisément du royaume. Là, il dit, verset 23 de Matthieu 18, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents, ça correspond à un talent. C'est 6 000, je ne sais pas quoi, un arrêt. Et c'est le qui correspond à un salaire quotidien d'un travailleur. Donc si on compte combien de temps il doit travailler plus de 100 000 ans pour payer ça. C'est vraiment, il doit travailler très très longtemps pour pouvoir rembourser cet argent. Et il vient au Seigneur, vers le roi. Mais le roi ne vient pas, le serviteur ne lui demande pas de lui pardonner, mais il lui demande plus de lui remettre sa peine. Mais lui donne-moi plus de temps, je vais payer, mais donne-moi plus de temps, alors que il lui faudrait énormément de temps. Mais il n'ose pas demander qu'il lui remette ce qu'il lui doit. Là, il dit juste, aie patience envers moi, je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, il lui remit la dette. C'est une dette qui était impayable. Et c'est cette attitude. Chaque homme a cette dette devant Dieu. Dans sa vie, il ne va jamais pouvoir payer cette dette par aucune manière. Mais là, le Seigneur, il est ému de compassion parce que ce serviteur est tombé, il s'est prosterné devant lui et lui a demandé la patience. Il s'est ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller, il lui remit la dette. Quand un homme devant Dieu se repent, quand un pécheur a cette attitude, le Seigneur lui pardonne. On doit aussi amener les hommes à Dieu pour recevoir vraiment, pour que le Seigneur pardonne cette dette. Pas les amener à s'excuser vers nous, mais vers Dieu. Je lis ensuite la suite. Après qu'il fut sorti, parce que ça m'étonne toujours cette suite, c'est pas un jour plus tard, c'est vraiment, il sort au moment où il quitte le roi. Ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. C'est rien. 100 deniers, c'est rien par rapport à toute la dette qui lui a été remise. C'est quelques centimes par rapport à aujourd'hui. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Seigneur, il a déjà perdu toute cette joie. Ça venait d'arriver. On lui a remis une dette impayable. Et là, il est capable de faire ça. Il le saisit, l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Il lui fait la même chose que lui, il a fait devant le roi, son compagnon, se jetant à terre, le suppliant, disait « Aie patience envers moi et je te paierai. » Et lui, l'autre lui demande aussi la patience et le payer. Mais lui, qu'est-ce qu'il répondait ? Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. C'est vraiment un exemple effrayant. De quoi l'homme est capable ? Vient de lui remettre cette peine. Et lui se comporte comme ça. Une dette impayable. Et juste après, il n'arrive pas à pardonner cette petite dette. Le Seigneur me rappelle souvent cet exemple. Quand j'ai quelque chose contre ma femme, et le Seigneur me dit, pense à tout ce que je t'ai pardonné. Est-ce que tu ne vas pas pardonner cette petite chose? Parce que le Seigneur exhorte aussi, et si tu ne pardonnes pas, ton Père ne va pas non plus te pardonner. Et ça, c'est quelque chose de très important. Nous devons absolument apprendre à nous pardonner les uns les autres. C'est important d'avoir cela dans notre cœur, d'être prêt à pardonner aux autres. C'est vraiment étonnant. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nous quand tu as devant les yeux, cette grande dette que le Seigneur t'a remis, pourquoi c'est tellement difficile de remettre la dette de quelqu'un de quelques centimes? Parce qu'en nous, il y a encore cette fierté. Ça montre que nous sommes encore très fiers. Notre fierté a été blessée. Et c'est pour ça que le Seigneur nous montre que nous n'avons pas encore compris ce principe. Nous devons vraiment le Seigneur traiter le Seigneur cette maladie de fierté. Seigneur, je veux être prêt à pardonner. Traite-moi, guéris-moi. Le Seigneur nous exhorte encore. Si nous ne pardonnons pas, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas, ça te coûte le royaume des cieux. Ça a une conséquence très dure. Nous ne devons pas sous-estimer cet aspect du pardon. Un jour dans ma vie de couple, ça fait 6 ans que je suis mariée. Et j'ai vraiment, pendant une semaine, gardé quelque chose dans mon cœur. C'était rien. Toute ma vie spirituelle descendait et j'avais pas la paix. Après, il lui dit, qu'est-ce qu'il fait? Il le jette en prison. Le maître dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Et son maître irrité le livre au bourreau jusqu'à qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Donc la conséquence, elle est terrible. Pour moi, c'était terrible cette expérience. Et le Seigneur m'a montré que nous devons vraiment tout de suite ôter ce levain. Le Seigneur dit vraiment, tu ne dois pas laisser le soleil se coucher sur ta colère. La conséquence n'est non seulement pour toi, mais aussi pour l'Église. Parce que la parole dit, de la croix, des racines d'amertume qui amènent vraiment pas la paix et qui tâchent. Parce que je peux dire que tu ne peux pas retenir ta bouche. Si nous ne pardonnons pas, nous allons parler de ça, mais pas d'une bonne manière. Ça ne va pas être des belles paroles d'encouragement qui vont sortir de ta bouche. Ça va être du levain qui va sortir. Et le levain va abîmer. Ce levain va emporter d'autres avec. J'ai visité une famille que je connais bien. Ils ont expliqué une chose entre le père et le fils aîné. C'est une histoire d'argent. Il y a 50 ans, le fils aîné devait d'argent au père. Le père ne pouvait pas le pardonner. Ils ont toujours essayé de se réconcilier depuis des années. Et là, le père a un jour dit, après tout ce que j'ai vécu, je ne peux plus. Il ne va jamais pardonner, alors je ne vais pas lui pardonner. Ils ont essayé encore une autre fois. Ils ont quand même essayé de se réconcilier. Le fils a dit, mais je pardonne, mais je n'oublie pas. Mais il y a un moment, c'est ressorti. À un moment, c'est ressorti. Et ça a montré, pardonner, ça doit aussi, c'est aussi oublié, ça va ensemble. Nous devons pas faire une liste. Quand même, quand on se marie, pas commencer à faire une liste de tous les trucs qu'on a contre l'autre. Ça doit, des listes comme ça, ça ne doit pas exister. Sinon, elles se rallongent année après année. Et ensuite, ça écarte les cœurs, ça éloigne les cœurs. Même entre nous, frères et sœurs. Cela, sinon, ça apporte beaucoup de destruction parmi les saints. Aujourd'hui, dans la religion, les hommes, ils cherchent des médiateurs. Même des églises médiatrices. Ils remarquent que là, il y a tellement tout qui va rien. Le pasteur n'a plus rien faire parce qu'il y a tellement d'amertume qui a œuvré. Alors, on va chercher quelqu'un à l'extérieur qui doit régler le problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tout ça a grandi. On ne peut plus pardonner. Il y a une liste qui est tellement longue. Ça montre combien c'est important. Si nous ne faisons pas ça va, cela, ne pratiquons pas cela, ça va tout détruire. Si nous ne pardonnons pas les uns les autres, ça va aussi détruire. Ça va nous coûter le royaume, mais ça va aussi abîmer l'Église. Donc c'est une exhortation très importante ici. Le monde et la religion sont complètement différents. Qu'est-ce que font le monde et la religion? Ils condamnent et ils détruisent. Par exemple, si nous voyons dans Matthieu 12, il y a un autre exemple. Les disciples du Seigneur sont dans un champ après le sabbat, pendant le sabbat, à partir du verset 1. Un jour de sabbat, ils sont dans un champ de blé, ils ont faim et ils se mettent à arracher des épis puis à les manger. Et ensuite les pharisiens viennent et ils voient cela puis ils disent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Et Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, etc. Et ensuite, une phrase plus tard, il dit plus tard, si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Il condamne même des innocents. Cela nous montre aussi, c'est un avertissement important, c'est que nous devons vraiment faire attention de ne pas condamner quelqu'un, de pardonner, si nous allons aussi commencer à condamner des innocents. Ça veut dire que nous sommes arrivés très loin dans la religion. Ce sont vraiment deux choses qui sont souvent sur mon cœur, que pour le royaume, il en va du royaume, alors nous devons particulièrement, avec ce focus sur le royaume, faire attention à ces choses, être prêt à pardonner, se faire petit, s'humilier, porter les fardeaux des autres. Le Seigneur nous montre ça dans une expression pratique, que tout ça est pour le royaume. Nous savons tous aussi que ce n'est pas dans notre humanité, mais le Seigneur nous a montré un chemin. L'offrande de fines fleurs de farine nous montre, de fleurs de farine, il nous montre vraiment la fine humanité du Seigneur. C'est-à-dire que cette vie qui a accompli toutes ces choses, cette vie qui était prête depuis le trône élevé à s'humilier, qui était prête à pardonner, quand le Seigneur renié Pierre, hein, il a pointé du doigt, qu'est-ce que tu as fait, Pierre? Ça, tu ne dois pas oublier ce que tu as fait. Mais non, avec assurance, il a regardé avec des yeux d'amour. Très certainement, parce que il avait déjà pardonné, il avait même prié pour lui. Cette puissance, le Seigneur nous l'a donnée dans son Fils Jésus-Christ. Et ça, aujourd'hui, nous devons le saisir. Nous avons un chemin pour vivre cette vie. Ce n'est pas quelque chose que nous devons produire de nous-mêmes, combattre en nous, mais par le Seigneur qui habite en toi, tu as cette humanité. Nous devons apprendre à expérimenter Christ comme notre fleur de farine dans ces choses.